Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Jacques Tikhonov,
d'Attaque. Eh bien, c'est justement à l'université d'été d'Attaque où j'étais allée à Poitiers que je vous ai entendu parler d'une charmante vieillerie. Ça s'appelle la charte de la Havane, ça a été fait en 1948. Et vous faisiez de vastes développements sur cette fameuse charte. Alors je me suis un peu marrée, il faut le dire, parce que quand même, pourquoi ressortir ce vieux truc hein?
Oh ben les vieux trucs, c'est relatif, parce que on enseigne bien à l'université et dans les lycées les classiques. Des textes qui sont encore plus anciens que la charte de la Havane. Je pense aux textes grecs notamment, mais il y en a des latins et bien d'autres. Ça n'est pas l'âge qui compte, c'est le contenu. Et ce qui est frappant, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un système radicalement nouveau de régulation de l'économie, de la monnaie, de la finance, du commerce avait été mis en place à l'occasion des accords de Bretton Woods en 1944. Et ce système reposait sur trois piliers. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et une organisation qui n'a jamais vu le jour, qui devait s'appeler l'Organisation internationale du commerce, l'OIC, s'appuyant précisément sur la charte de la Havane. Alors pourquoi ressortir la charte de la Havane aujourd'hui? Parce que le libre-échange est devenu un des piliers des politiques néolibérales. Et nous pouvons observer combien le libre-échange a aggravé les inégalités entre les pays, particulièrement les pays pauvres et les pays riches. Face au libre-échange, peu de solutions, peu d'alternatives sont proposées. Et il y a une sorte de tabou qui s'est installé au motif que les quatre libertés, comme on les appelle, la liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des services et de la main-d'œuvre, seraient le summum de la liberté et que vouloir entraver l'une de ces quatre libertés serait sombrer dans le protectionnisme, c'est-à-dire le nationalisme, la xénophobie, etc., etc. Ce sont des idées reçues. Un conditionnement des esprits a été organisé et qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Et la charte de la Havane permet précisément de montrer qu'en 1948, il y avait une autre façon d'envisager le commerce international, fondée non pas sur le libre-échange et la concurrence, mais sur la coopération, qui n'empêche pas d'ailleurs la concurrence.
Mais pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre finalement, cette charte ?
Ça n'a pas été mis en œuvre parce que le Congrès, le Sénat des États-Unis a refusé de signer ce traité international. La charte de la Havane était un traité international et dans la Constitution américaine, le Sénat joue un rôle particulier. Si le Sénat américain a refusé de signer, c'est d'abord parce que nous entrions dans la guerre froide, d'une part, et d'autre part, parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine qui s'était transformée en industrie de guerre avait besoin de se reconvertir en industrie civile. Elle disposait d'immenses stocks de marchandises. Elle avait besoin de faire tourner son économie. Et le meilleur moyen était d'exporter, évidemment, dans des conditions inégales, puisque la charte de la Havane prévoyait un équilibre des échanges. Je t'achète autant que tu me vends. Or, les États-Unis à cette époque-là avaient besoin de vendre beaucoup plus qu'ils n'achetaient à l'extérieur. Donc, pour des motifs de politique intérieure, les États-Unis n'ont pas signé la charte de la Havane.
Et équilibre des échanges, plus précisément, j'avais pas très très bien compris.
Alors là, on entre dans les principes de la charte de la Havane, c'est-à-dire finalement les alternatives aux politiques de libre-échange. Que peut-on faire face au libre-échange, c'est-à-dire la suppression de toutes les barrières permettant le commerce, au motif que la suppression de ces barrières permettrait le développement économique et l'emploi. Le premier principe, peut-être le plus important, sur lequel repose la charte de la Havane, et par conséquent toute alternative au libre-échange, c'est l'équilibre des balances intérieures, des balances des paiements. Alors, la balance des paiements, qu'est-ce que c'est ? C'est le total des exportations et des importations, le solde. Le solde, c'est la différence entre les exportations et les importations de toute nature, qu'il s'agisse de capitaux, de services, de marchandises et de main-d'œuvre, avec évidemment l'épargne qui retourne dans les pays. Alors, l'idée de la charte de La Havane, c'est que les relations entre deux pays doivent aboutir à un équilibre, à un certain équilibre de la balance des paiements. Autrement dit, personne ne détient un surplus, un excédent par rapport à l'autre pays. Je t'achète autant que tu me vends. C'est un principe absolument fondamental qui respecte l'indépendance des pays et qui oblige à des discussions entre les gouvernements pour se mettre d'accord sur les produits qui vont faire l'objet du commerce, au lieu de la concurrence acharnée, de la véritable guerre commerciale que nous connaissons aujourd'hui. Et cet équilibre de la balance des paiements fait l'objet de discussions permanentes entre les pays concernés, et il était prévu, avec l'Organisation internationale du commerce également, que des mécanismes soient organisés pour permettre cet équilibre sur le moyen terme, évidemment. Ce n'est pas un équilibre au jour le jour. Ce qui permet également d'accepter des déséquilibres. Je prends un exemple. La France peut considérer que, par solidarité, par choix politique, elle va accepter un déficit vis-à-vis de tel ou tel pays africain. Ce principe de l'équilibre de la balance des paiements, là, peut être remis en cause par décision politique, la France acceptant d'être en situation de déficit commercial vis-à-vis de tel ou tel pays africain. Bon, nous avons là un principe qui, évidemment, s'oppose totalement aux principes actuels du libre-échange.
Oui, mais justement, alors le jeu qui consiste à être toujours plus compétitif que le voisin, ça, on va plus pouvoir y jouer ?
Non, ce jeu, d'ailleurs, c'est pas un jeu, c'est une guerre, puisque il s'agit de conquérir. Les mots qui sont utilisés illustrent parfaitement cette stratégie. Il s'agit de conquérir des marchés et de gagner des parts de marché à l'extérieur, à l'exportation. Il faut bien comprendre que lorsqu'un pays gagne des parts de marché à l'exportation, il provoque un endettement du pays dans lequel il a gagné des parts de marché. Parce que le total des exportations à l'échelle mondiale correspond au total des importations. Et donc vous avez avec ce système des pays qui provoque de la dette dans d'autres pays. C'est un système qui est inégal et c'est un système dans lequel les plus gros gagnent toujours. On le voit avec l'évolution de ces 20 dernières années où les écarts se sont aggravés entre les pays riches et les pays pauvres.
Des sous et des hommes sur Aligre FM et on est toujours en compagnie de Jacques Nikonoff d'Attaque. Donc, on parlait de la charte de La Havane et tout à l'heure vous avez utilisé le mot de coopération. Vous avez dit que cette charte favorisait la coopération. Comment d'une part, puis c'est nouveau ça, non ?
Alors il faut déjà savoir que la charte de La Havane, qui traite donc des relations économiques entre les pays, est née des Nations Unies. Il faut savoir également que l'Organisation mondiale du commerce, actuellement, ne fait pas partie des Nations Unies. C'est un système totalement à part. Et le fait que cette charte naisse des Nations Unies montre bien l'ambition politique qui était celle des responsables politiques de l'époque. Et c'est le titre, d'ailleurs, lui aussi est frappant, puisqu'il s'agissait en 1946, la décision est prise de convoquer une conférence internationale sur le commerce et l'emploi en vue de favoriser le développement de la production, des échanges et de la consommation des marchandises. Cette conférence est tenue de novembre 1947 à mars 1948. Donc, deux remarques, c'est né au sein des Nations Unies, d'une part, et d'autre part, on place l'emploi tout de suite au cœur des problèmes. On ne sépare pas le commerce de l'emploi. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la séparation est totale entre les problèmes du commerce et les problèmes de l'emploi. Au contraire même, puisque avec les délocalisations, on conditionne l'efficacité économique à la diminution d'emplois. Nous sommes donc aujourd'hui dans un système qui est totalement inverse à celui qui avait été imaginé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la coopération, elle se fait de plusieurs manières dans ce système, de ce nouvel ordre international en matière de commerce. Il y a, par exemple, des normes de travail obligatoires. Autrement dit, là aussi, il y a un lien entre cette Organisation internationale du commerce, l'OIC, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, projet qui ne verra jamais le jour, et des organisations comme l'Organisation internationale du travail. L'OIT fait partie de l'OIC. C'est aujourd'hui impensable avec l'OMC. L'OMC n'accepte pas l'OIC, même s'il peut y avoir ici ou là quelques observateurs de l'Organisation internationale du travail. Et dans les relations commerciales, un autre principe est fixé à l'époque, qui est celui des normes de travail équitables. À aucun moment et sous aucun prétexte, les conditions de travail, la façon dont les travailleurs sont traités, ne peut être remise en cause pour des motifs commerciaux. Il faut respecter ces normes de travail équitables. Et à l'époque, c'est dans le texte de la charte de La Havane. Aujourd'hui, on le sait, eh bien, beaucoup d'associations, beaucoup de gens essaient d'obtenir que les normes de travail équitables soient inscrites dans les règles de l'OMC et dans les pratiques commerciales. Ça, c'est donc un premier point. Ensuite, on peut observer dans la charte de La Havane qu'il y a des mesures tout à fait particulières concernant les investissements. Nous parlons aujourd'hui de la globalisation financière, de la spéculation, du mouvement effréné des capitaux. À l'époque, il est prévu, je vais vous citer l'article 12, un morceau de l'article 12 de la charte de La Havane qui dit ceci, un État membre a le droit de prendre toutes mesures appropriées de sauvegarde nécessaires pour assurer que les investissements étrangers ne serviront pas de base à une ingérence dans ses affaires intérieures et sa politique nationale, de déterminer s'il autorisera à l'avenir les investissements étrangers et dans quelle mesure et à quelles conditions il les autorisera. Alors ça, c'est une phrase qui est susceptible de faire hurler les libéraux aujourd'hui, parce que il est clairement indiqué que chaque État autorise ou non l'entrée d'investissement, quel qu'il soit, et que chaque État a la liberté absolue d'accepter ou de refuser. Donc quand aujourd'hui nous disons que les mouvements de capitaux doivent être contrôlés, franchement, nous n'avons rien inventé, puisqu'il y a 60 ans déjà, cette proposition était déjà faite. On peut prendre encore un exemple, si vous le voulez, avec les produits de base. Il y a, dans la charte de La Havane, une partie particulière concernant les produits de base. Alors que sont les produits de base? Ben, c'est le riz, c'est le blé, c'est ce qui permet l'alimentation et la survie des populations. La charte de La Havane considère que les produits de base ne peuvent pas être traités comme des marchandises. Il faut un régime spécial et ce régime est prévu dans la charte de La Havane au point que, d'ailleurs, la notion qui est utilisée, c'est traitement spécial. Traitement spécial. Ça correspond à ce que nous appelons aujourd'hui les biens communs universels ou autres appellations similaires que nous refusons de voir tomber dans le marché, dans la marchandise. Alors, ce traitement spécial autorise les États à accorder des subventions, à subventionner les prix de ces produits. Par exemple, eh bien, le riz, le blé et d'autres produits de base peuvent être subventionnés par les États si ça permet à des populations de survivre. Les secteurs qui produisent ces biens de base peuvent également être subventionnés par l'État. Et les États peuvent également réduire les importations de produits de base en fonction de leur propre capacité de production et de consommation. Alors, on se pose des tas de questions aujourd'hui sur les biens communs, sur toutes ces choses-là. Mais franchement, dans la charte de La Havane, les choses sont parfaitement claires. Il faut simplement oser affirmer que les États doivent avoir la possibilité de choisir la souveraineté alimentaire, comme dit la Confédération paysanne, mais au-delà de la souveraineté alimentaire, il y a aussi la souveraineté sociale et la souveraineté industrielle, bien entendu.
Des sous et des hommes sur Aligre FM, et on est toujours en compagnie de Jacques Nikonoff, qui m'a toujours fait rire parce qu'il a toujours dit des gros mots au centimètre carré, quand même assez impressionnant. Là, vous avez quand même réussi à dire deux fois au moins État. Après, vous avez dit souveraineté sociale et industrielle. C'est gentil, mais c'est plus possible, ça, actuellement. C'est complètement dépassé.
Oui, ça, c'est la pensée unique, ce que vous décrivez, c'est-à-dire la pensée de l'impuissance. Et au contraire, dans le monde actuel, contrairement à ce qui est dit, la mondialisation non seulement n'empêche pas les États d'agir, mais elle devrait les inciter à agir beaucoup plus. La mondialisation n'est qu'une stratégie organisée pour réorganiser le travail à l'échelle planétaire. Ça n'est pas plus que cela. Donc soit on accepte cette réorganisation du travail à l'échelle planétaire pour redresser les profits et la productivité, soit on s'y oppose. Et le libre-échange est un des principaux vecteurs, évidemment, pour favoriser cette réorganisation du travail à l'échelle planétaire en vidant de leur substance les pays les plus développés, pour affaiblir le mouvement syndical, les résistances, les acquis obtenus par les travailleurs. Donc tel est le problème. Si on veut le résoudre, on sait ce qu'il faut faire. Si on ne veut pas le résoudre, on connaît aussi tous les rideaux de fumée qui sont répandus depuis un certain nombre d'années. Alors, par rapport au libre-échange, il faut des actes unilatéraux. Un acte unilatéral, c'est la décision d'un État de s'affirmer comme tel. Et dans le cadre du commerce international, cela signifie des mesures de protection du marché intérieur. Et je ne parle même pas à l'échelle européenne, parce que la construction européenne n'est qu'un vaste ensemble de libre-échange, et l'entrée de nouveaux pays ne se fait pas sur des bases politiques, mais tout simplement pour accélérer la purge des emplois industriels, notamment des pays les plus développés, au profit de ces pays les plus pauvres, au profit entre guillemets d'ailleurs, parce que ça ne leur apportera pas grand-chose. Alors, en termes, je parle de la population de ces pays. Ce sont les profits qui vont en bénéficier, mais certainement pas de la population de ces pays. Alors, un acte unilatéral signifie pour un État d'interdire l'entrée sur son territoire de capitaux, de services, de marchandises et de main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier ce que les néolibéraux européens appellent les quatre libertés, liberté entre guillemets. Et par conséquent, un pays qui ferait ça s'exposerait à la vindicte d'un certain nombre d'institutions internationales. Mais ce serait un honneur, parce que ces institutions internationales ont un bilan calamiteux. Ce sont elles qui ont contribué aux crises financières, aux crises monétaires, aux crises économiques, aux crises environnementales, aux crises sociales. Et donc, faire l'inverse de ce qu'elle préconise, d'ailleurs, même si on n'y comprend pas grand-chose, est peut-être le plus sûr moyen de ne pas sombrer comme ont sombré les économies asiatiques ou l'Argentine. Alors, un acte unilatéral, c'est donc dire non, non à l'importation, à l'envahissement d'un certain nombre de produits, mais en essayant de le faire de manière coopérative. Autrement dit, il faut développer une vision d'un protectionnisme universaliste. Parce que le protectionnisme, évidemment, a mauvaise presse, et il peut être extrêmement négatif s'il se limite à la simple protection d'un territoire sur des bases nationales, ethniques, culturelles et autres. Il faut au contraire avoir une vision universaliste du protectionnisme, c'est-à-dire un système mondial qui soit profitable à tous. Et par conséquent, un protectionnisme universaliste peut naître et se construire dans le cadre du libre-échangisme actuel. Il peut se développer, par exemple, par la signature de traités internationaux bilatéraux entre des pays qui souhaitent se dégager du libre-échange. Et ces traités bilatéraux peuvent définir l'obtention, la perspective de l'équilibre de leur balance des paiements respectifs sur 10, 15, 20 ans, selon les cas, ce qui permet les réajustements, les ajustements dans les différents pays. Mais on voit bien en même temps que cette perspective d'accords bilatéraux qui viendraient ronger de l'intérieur le système du libre-échangisme mondial nécessite dans chaque pays des mesures permettant d'assurer le plein emploi. Le plein emploi, quoi qu'il se passe. Parce que si on accepte de réduire des exportations, parce que ces exportations provoquent un déficit chez l'autre, certes un déficit pour nous, un excédent pour nous, mais un déficit chez les autres. Nous allons devoir réduire ces exportations. Et par conséquent, il y aura peut-être des problèmes d'emploi. On ne peut donc socialement, politiquement, économiquement, aller dans cette direction qu'à la condition d'assurer l'emploi pour tous, une continuité de l'emploi pour les uns et pour les autres. Parce que ces ajustements pourront avoir un impact sur l'emploi. Donc c'est un système assez complet et complexe qu'il faut inventer à partir d'une volonté politique inébranlable, parce que tout le monde va nous tomber dessus. Tout le monde, j'entends les grands médias, évidemment, les institutions internationales et un certain nombre de gouvernements qui sont acquis aux thèses libérales. En revanche, on peut parfaitement imaginer que d'autres pays soutiendront cette perspective et qu'à partir de là, tout un système d'accords bilatéraux peut naître et devenir un nouveau système mondial qui se développerait lui aussi à l'échelle internationale parallèlement au système de l'OMC, OMC qu'il faudrait quasiment quitter. Aujourd'hui, des pays veulent y entrer. Le débat aujourd'hui, à mon avis, devrait porter aussi sur ce qu'on appelle en droit international le droit de retrait, se retirer de l'OMC pour redevenir libre et établir des relations libres avec les autres.
Et oui, donc c'était des sous et des hommes en compagnie de Jacques Nikonoff. Jacques Nikonoff que je regrette de ne pas pouvoir interviewer plus longtemps, mais c'est la règle. Il était donc venu pour la 150e de Dessous, après être venu pour la centième, je l'en remercie. Et la semaine prochaine, alors deux possibilités, soit nous aurons François Morin sur GDF, voilà, j'ai peut-être trouvé enfin quelqu'un de bien en plus, soit nous écouterons Jacques Sapir, et ben ça continuera ce que vient de dire Jacques Nikonoff. Voilà, à la semaine prochaine.